bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Bon, finalement, on va partir, on va faire dans la tradition, qu'est-ce que vous croyez? Je vous rappellerai, je vous apprendrai que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans et plus si affinité depuis un sacré paquet d'années. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons musarder dans les films consacrés à Paris, par les Français, parce que Paris a été filmé moult fois par de nombreux autres pays et par de nombreux autres réalisateurs, mais en l'espèce, on va essayer de rester français, de voir Paris filmé par les Français. Et on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné par Louis Malle en 1960, d'après un roman de Raymond Queneau. En l'espèce, Zazie dans le métro. Alors Raymond Queneau, qu'on a peut-être un peu oublié, l'un des piliers de l'Oulipo, l'ouvre de littérature potentielle, était un homme habitué aux jeux de mots les plus cocasses, mais aussi les plus difficiles. Et Zazie dans le métro était présenté comme l'un de ces romans inadaptables au cinéma. C'est bien pour ça, apparemment, que Louis Malle s'y colla, si vous me passez l'expression, avec Jean-Paul Rapneau, qui devint quelques années plus tard le subtil réalisateur de La vie de château, du Hussard sur le toit et de quelques autres. Ma foi, le résultat, il est loin d'être déshonorant. On y retrouve dans les rôles principaux la petite Catherine de Mongeau et Philippe Noiret qui joue le rôle d'oncle Gabriel, plus ou moins transformiste le soir. Et ma foi, tout ça est plutôt bien enlevé sur le genre loufoque et burlesque lorgnant du côté du cinéma muet américain. La petite Zazie a débarqué à Paris, comme le titre l'indique, pour voir le métro, mais manque de peau. Nous sommes en 1960, donc le métro est déjà en grève, mais à l'époque, le métro, quand il était en grève, il était fermé. Du coup, Zazie repart quelques jours plus tard en disant « Mais personne ne l'a oublié. Oh ben, si j'avais su, j'aurais pas venu. » Allez, Zazie le métro dans 24 notes, second. La plaisante ritournelle qui accompagne Zazie dans Zazie dans le métro, un film de Louis Malle tourné en 1960, dont j'ai oublié, honte sur moi, de vous indiquer que la musique en était signée de Fiorenzo Carpi. Et c'est bien cela que nous venons d'écouter. On évoque un peu Paris au cinéma et dans le cinéma français. Et bien donc là, on voyait le Paris des années 60 et on va faire un saut dans le temps. pour évoquer toujours le métro, tiens comme c'est curieux, mais c'est pas fait exprès, pour un film tourné en 1985, donc dans un tout autre Paris, un film signé de Luc Besson. Vous voyez qui c'est Luc Besson ? Eh bien en 1985, l'homme avait 25 ans et il venait de tourner son premier film, fort remarqué et d'ailleurs fort bienvenu, je vous le conseille, Le Dernier Combat, un film de science-fiction en noir et blanc à tout petit budget, mais qui avait connu un tel succès que les producteurs de l'époque, plus personne n'offrait ça maintenant, eh bien lui avaient confié un budget des plus confortables pour tourner Subway, métro en français, son deuxième film, avec évidemment là encore un casting lui aussi tout à fait confortable, puisqu'il y avait, allez je vais commencer par les seconds rôles, ça nous changera, Richard Boringer, Michel Galabru qui jouait un commissaire un peu, comment dire, un peu parti, avec son adjoint l'inspecteur Batman, je ne l'invente pas, incarné par Jean-Pierre Bacri. Il y avait aussi Jean Bouise, qui fut un des fidèles de Luc Besson, et il y avait aussi Jean Reno, qui était un futur, fidèle de Luc Besson, et que, sauf erreur de ma part, on voyait déjà, tout comme Jean Bouise, dans Le Dernier Combat. Et en tête d'affiche, me direz-vous, eh bien en tête d'affiche, il y avait l'alors sublime, que je suis goujat, Isabelle Adjani, et puis il y avait notre Christophe National, Christophe Lambert. Christophe Lambert, qui dans ce film portait un smoking et s'était teint les cheveux dans un blond. Comment dire, un peu particulier, je le contemple là sur l'affiche, en tout cas sur une photo extraite du film, et je ne dirais pas que les bras m'en tombent, sinon je ne pourrais pas continuer cette émission, mais c'est tout comme. Eh bien, vous le croiriez-vous, le film, lui, il était plutôt pas mal venu, en fait, avec une esthétique qui rappelait quand même très largement celle du Diva de Jean-Jacques Benex, mais le tout tenait avec un petit côté surréaliste plutôt bienvenu. On avait donné beaucoup d'argent à Luc Besson, on lui avait même donné Alexandre Trauner, un vieux de la vieille, comme décorateur, eh bien le gars, il ne s'était pas laissé impressionner et il avait fait le film comme il le voulait et c'était plutôt bienvenu. Comme il le disait à l'époque, les gens attendaient quelque chose d'intello, de prétentieux. Je propose un film de môme. J'ai 25 ans, je ne peux faire que des films de 25 ans. Le problème, gars, c'est que 30 ans plus tard, il aurait fallu grandir un peu. Allez, Subway dans 24 notes secondes. Il doit y avoir une mini malédiction sur cette émission, puisque là encore, j'ai oublié de vous indiquer le nom du compositeur. Les fans de Luc Besson, s'il en reste, l'auront sans doute reconnu. Il s'agit d'Éric Serra. Mais oui, Éric Serra, qui fut le compagnon de Luc Besson sur de très très nombreux films, évidemment, c'est à lui qu'on doit la musique du Grand Bleu. Mais bon, tu peux revenir, tout est pardonné quand même. Par contre, on ne lui doit pas, alors ça c'est une petite incise, la musique du dernier opus, ma foi diversement accueilli, du susdit Luc Besson, Valérian et quelque chose. La musique, elle est pourtant signée de notre grandissime Alexandre Desplat, mais, et je n'aurais jamais cru dire ça, eh bien on aurait presque préféré que ce soit Éric Serra, parce que Luc Besson et Alexandre Desplat, ça le fait pas, mais ça le fait pas. Voilà, c'était pas le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est Paris au cinéma vu par les cinéastes français. Alors tout à l'heure, j'évoquais les cinéastes américains qui ont une tendance à idéaliser notre belle ville lumière, mais c'est aussi le cas dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dont la musique est signée de Yann Tiersen, comme ça je l'ai dit, un film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2001 et qui raconte l'histoire, vous l'auriez sans doute deviné vous-même, parce que quand même vous êtes des auditeurs de Divergence FM, d'Amélie Poulain, née le 3 septembre 1973 à 18h28min32s de la fécondation d'un ovocyte de Madame Amandie Poulain, née Fouet, par un spermatozoïde de Monsieur Raphaël Poulain, né Poulain, vous l'auriez sans doute deviné. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Je parle des noms, hein. Je ne parle pas du reste. Bref, un film qui se passe dans le quartier de Montmartre, ou en tout cas qui est censé se passer dans le quartier de Montmartre, mais le tout reconstitué et, comment dire, idéalisé par Jean-Pierre Jeunet dans un Paris de cartes postales, parfois au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ce sont des cartes postales qui ensuite s'animent, ce qui fait que dans la mesure où le film a eu un succès mondial, quand un Japonais débarque à Paris, déjà il n'est pas déçu, mais quand en plus il cherche à Montmartre à retrouver les endroits où a vécu Amélie Poulain, eh bien, le gars, il repart pour Tokyo direct. Bon, je caricature, en tout cas, le film, lui, il a rencontré, et c'était pas gagné, un succès français, c'est certain, mais aussi international, puisqu'il fut nommé 5 fois aux Oscars, s'il vous plaît, et 13 fois au César, mais là, c'est quand même plus courant, César qu'il obtint notamment pour la meilleure bande originale signée de Yann Tiersen. Comme ça, je l'aurais dit 2 fois, et on est sûr. Dans les rôles principaux du film, il y avait Audrey Tautou, évidemment, Amélie Poulain, Mathieu Kassovitz dans le rôle de Nino Quinquant en poids, et il y avait évidemment notre Jamel Debbouze national, et encore plein d'autres gens encore. Allez, maintenant je l'ai dit, Yann Tiersen, ça fait 3, on écoute un extrait de la bande originale du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain dans 24 secondes. Thank you. Je peux pas le faire, ça. Un extrait de la bande originale du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, une musique de Jan Tiersen, d'ailleurs partiellement composée pour le film, puisqu'en fait, beaucoup de morceaux composés par Jan Tiersen préexistaient au défi, mais une bande originale qui rencontra un très très grand succès pour une bande originale, surtout 1 million d'exemplaires. Il y a quand même peu de personnes, même Ennio Morricone, qui peuvent y arriver. Et donc un film toujours très très réputé, même s'il présente une vision, comment dire, un peu déformée de notre beau Paris et surtout de Montmartre. J'y suis allé récemment, ça ne ressemble pas du tout au fabuleux destin d'Amélie Poulain. On va rester à Paris, on va rester aussi dans un quartier emblématique, le Quai des Orfèvres, même si, vous le savez sans doute, le Quai des Orfèvres ne l'est plus, ou en tout cas ce n'est plus le siège de la police parisienne, quelque part dans un immeuble bétonné en banlieue ou proche maintenant, comme beaucoup de, je dirais, d'administrations parisiennes, pour un film de Olivier Marchal, j'allais dire Georges Marchal, c'est un autre, un film d'Olivier Marchal sorti en 2004 et qui s'appelait précisément 36, Quai des Orfèvres, dans les rôles principaux duquel on retrouvait les solides Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, deux grands chefs bien virils comme Olivier Marchal, lui-même ancien policier, les aime, et qui, plutôt que de s'allier pour lutter contre un gang qui multiplie les interventions sanglantes à l'arme de guerre dans la région parisienne, eh bien, décide, dans une tradition bien française, de s'affronter. C'est-à-dire qu'à la guerre des gangs répond celle des polices. Là encore, on l'a vu dans beaucoup de films, mais il faut reconnaître que Olivier Marchal, d'abord, a un indéniable avantage documentaire. Il connaît ce dont il parle, et d'ailleurs, les deux personnages principaux du film incarnés par Depardieu et Auteuil sont inspirés de personnages réels et de faits réels, comme on le dit. Et puis l'homme a quand même une, comment dire, une patte cinématographique. Il sait filmer, il sait monter, il sait construire une histoire et la mener à son terme. Et ma foi, Auteuil, Depardieu, 36, Quai des Orfèvres, ça le fait. Surtout quand dans les rôles secondaires, on retrouve d'aussi solides personnages qu'André Dussolier, Roche Dizem ou Daniel Duval. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Alors, elle est signée de deux compositeurs et tristes qu'on écoute rarement dans 24 notes secondes, mais ce sera donc bienvenu. Erwan Kermorvan et Axel Dezelle, s'il vous plaît, Renoir, pour un extrait de 36 Quai des Orfèvres, mais dans 24 notes secondes.
Thank you.
Une bien sombre musique pour un film qui ne l'était pas moins, un extrait de la bande originale de 36 Quai des Orfèvres, un film d'Olivier Marchal, tourné en 2004, une musique signée d'Erwan Kermorvan et d'Axel Renoir, un film qui donc se passait à Paris et dans la région parisienne, ville à laquelle nous consacrons cette émission de 24 notes secondes ce jour, et on va rester dans le milieu policier, on va rester dans l'aspect semi-documentaire, encore plus peut-être qu'avec le film d'Olivier Marchal, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné par Mai Wen et sorti en 2011 et qui s'appelait Police, P-O-L-I-2-S-E, une faute d'orthographe dû, d'après la réalisatrice Mai Wen, à son fils en écrivant le mot police. Et ma foi, ce n'était peut-être pas, ce n'était certainement pas un hasard si elle faisait allusion à son fils, puisque le film était consacré au quotidien plutôt noir de la Brigade de protection des mineurs de Paris, la BPM de Paris, qui lutte contre tous les sévices subis par des mineurs. Et ma foi, ça fait peur, c'est peu de le dire, pédophile, appréhension de parents, appréhension, non, c'est pas le mot. Parents soupçonnés de maltraitance en tout genre, pardonnez-moi, adolescents pickpocket, en dérive, etc. Bref, un film plutôt noir, et même très très noir, mais nourri de l'expérience de Mai Wen dans la BAPM déjà citée, et avec aussi des interprètes qui avaient réussi à dépasser leur propre personnalité pour se fondre dans un tout, en l'espèce des acteurs comme Karine Viard, actrice comme Karine Viard, Marina Foïs, Mai Wen elle-même qui jouait une photographe venant faire un reportage sur la BPM. C'était un peu téléphoné comme genre, mais ma foi, cela fonctionnait plutôt pas mal. Et il y avait aussi Joey Starr. Alors, je ne dirai rien sur Joey Starr, mais il vaut mieux que je dise rien sur Joey Starr. Mais il était pas mal quand même. Voilà, on écoute un extrait de la bande originale de ce film, Police, Mai Wen. Et là, je ne sais même pas qui a signé cette bande originale. Ah si, Stéphane Warbeck, ouf, dans 24 notes secondes. Thank you. La bien sombre musique de Stephen Warbeck pour un extrait de la bande originale de Police, un film de Mai Wen, mais dont il faudrait souligner que le scénario en était co-signé par Emmanuel Berko, qui tenait dans le film le rôle de Sue Ellen. Je suis sûr que ce n'était pas son vrai prénom. Voilà, et bien pour une fois, 24 notes secondes, et bien on est trop court, qui l'aurait cru? Donc on va se refaire un petit coup de notre générique, sans néanmoins vous avoir rappelé que notre générique, eh bien, c'est une musique de film. Diamant sur canapé, Audrey Hepburn, George Pippert, Blake Edwards, 1962, Henry Mancini, Moon River. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.